Renan Blanc, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes gérant spécialisé des taux chez Quilvest Gestion. On va parler avec vous de stratégie sur ces marchés obligataires. On commence bien entendu par la politique monétaire. Si on commence par l'Europe, peut-être avec, on a encore entendu sur une radio périphérique ce matin, Mario Draghi dire que les taux allaient rester bas pour une période assez longue. Est-ce que les dernières déclarations, les derniers mouvements de la Banque Centrale Européenne, comment ils ont été interprétés finalement par les marchés?
En fait, la BCE cherche à tout prix à se démarquer de ce que fait la Réserve fédérale. Aujourd'hui, on a les grandes banques centrales qui sont sur des trajectoires différentes, et dans le cas de la Fed et la BCE, des trajectoires complètement opposées. On sait que la Fed prépare le terrain à un futur resserrement monétaire, qui est plutôt à voir comme une bonne nouvelle, dans la mesure où l'économie américaine a gagné en puissance et a retrouvé son rôle de moteur de l'économie mondiale. Et l'Europe, malheureusement, est dans une situation diamétralement opposée, avec une banque centrale qui cherche à tout prix à éviter que la zone ne replonge en récession. Donc en étant très vocable, la BCE cherche à se démarquer de ce que fait la Fed et, je le disais, à éviter d'importer ce resserrement monétaire qui pourrait coûter très cher à une zone qui est aujourd'hui toujours en phase de convalescence. Mais le vrai problème de l'Europe aujourd'hui, ce n'est pas un problème d'offre, c'est un problème de demande. Il est difficile de stimuler la demande intérieure via des opérations de quantitative easing, comme on aime à l'appeler en zone euro. Et c'est finalement des opérations qui ne marche pas vraiment. Preuve en est, la dernière opération de l'altéro ciblée de la BCE a été assez décevante et la demande a été relativement modérée. Donc finalement, Mario Draghi, par cette communication, cherche à accentuer la baisse de l'euro, donc un stimuli à une voie détournée pour essayer de redresser les anticipations d'inflation et essayer de casser cette dynamique et cette spirale déflationniste.
Là, on peut dire que de ce côté-là, ça a marché. On peut dire, en tout
Oui.
cas, ça, il y a eu ce mouvement de baisse de l'euro depuis maintenant quelques temps.
Oui, il est à la manœuvre et pour l'instant, il manœuvre relativement bien avec des moyens qui ne sont pas illimités. C'est vrai qu'il y a beaucoup de comparaisons avec les politiques quantitatives qui ont été menées par les banques centrales anglo-saxonnes, mais il ne faut pas s'y tromper. La BCE pratique une politique qui est différente. Beaucoup de maisons poussent pour voir la BCE acheter des emprunts d'État de manière massive. Il faut bien avoir en tête que les Allemands y resteront opposés et si ce déploiement devait arriver, ça arriverait de toute manière dans les conditions économiques largement plus exécrables qu'elles le sont aujourd'hui. Maintenant, il ne faut pas oublier non plus que l'économie américaine est aujourd'hui sur de bons rails et aura sans doute un effet d'entraînement pour la zone euro, espérons-le, l'année prochaine.
De ce point de vue-là, il y a un vrai débat. On peut dire qu'il y a des investisseurs, alors on peut dire majoritairement effectivement, qui suivent le tableau de la Fed et en disant printemps 2015, hausse de taux. Il y a quelques minoritaires pour l'instant qui commencent à dire ça pourrait être plus tôt, ça pourrait ne pas être comme prévu. Est-ce que là-dessus, vous suivez, entre guillemets, non pas aveuglément, mais vous suivez la Fed ou vous posez des questions?
On fait partie de l'école où il vaut mieux agir plus tôt que trop tard, pour la bonne et simple raison qu'en préparant en amont les marchés et en voyant les investisseurs finalement s'ajuster à ce scénario de resserrement monétaire, ça permet à la Fed de jauger l'impact sur l'économie réelle de son futur resserrement avant même qu'il arrive. Donc quelque part, elle va, en jargon obligataire, piloter un petit peu la courbe en favorisant l'aplatissement, c'est-à-dire une remontée des taux courts et des taux longs qui remontent, mais beaucoup moins vite. Ce qui finalement serait un scénario idéal pour l'économie américaine et l'accompagnerait dans sa phase de reprise. Aujourd'hui, les investisseurs, en règle générale, n'y croient toujours pas, pour la bonne et simple raison qu'on a eu de nombreux feux départ dans le passé en termes de croissance, beaucoup de déceptions. Mais aujourd'hui, comme disent les anglo-saxons, on pense que la situation est différente. Et donc, on pense véritablement que la Fed devrait amorcer un premier mouvement de resserrement monétaire d'ici le premier trimestre de l'année prochaine et de manière beaucoup moins progressive qu'on l'imagine. Aujourd'hui, l'économie américaine est armée pour encaisser ce mini-choc monétaire, que ce soit du côté des entreprises ou du côté des ménages.
Est-ce que les marchés, eux, sont vraiment protégés? On se souvient de l'historique sur les marchés obligataires et il y a alors, toujours des acteurs pour l'instant minoritaires, mais qui disent on ne pourra pas éviter un krach obligataire, vu les montants finalement qui ont été mis sur ces marchés.
Alors, il faut bien avoir aussi en tête que resserrer les taux, c'est réaiguiller les flux d'investissement aussi vers la zone dollar. Donc quelque part, la Fed, en limitant ses achats de dette souveraine qu'elle fait maintenant depuis un an, on a un début de substitution avec des rendements qui vont avoir tendance à monter et attirer de nouveaux capitaux. Des capitaux qui pourraient d'ailleurs être pris de la zone euro, et c'est un petit peu ce qu'on voit en ce moment sur les marchés. Donc finalement, c'est un mal pour un bien. C'est pas un jeu à somme nulle, mais procéder ainsi et bien préparer en amont les marchés à ce resserrement monétaire qu'on attend maintenant pour le début de l'année prochaine, c'est aussi un moyen de réorienter les flux d'épargne avec des gros acteurs type Banque Centrale Asiatique qui pourraient continuer à acheter des trésoreries en retrouvant un petit peu le rendement qu'elles n'ont pas aujourd'hui.
Sur l'évolution de la stratégie, justement, on a vu par exemple les taux sur les pays périphériques en Europe, effectivement nettement diminuer. Quelle est justement la stratégie dans la zone euro en tout cas ?
Alors, sur la partie obligataire, si on ne peut pas. On ne peut pas évoluer indépendamment de ce qui se passe aux États-Unis. Donc il y aura quand même un effet d'entraînement sur la partie dette souveraine. Et ce qu'on a vu ces derniers mois, c'est une convergence généralisée de tous les taux européens. Aujourd'hui, on pense qu'on arrive à un point bas. Le spectre de la déflation reste présent, mais c'est un scénario qui, pour le moment, qu'on écarte. Et finalement, en termes de valeur, il y a peu d'attrait à continuer à investir sur les dettes souveraines, que ce soit des pays cœurs ou des pays périphériques. Donc on aura sans doute dans les prochains mois un mouvement concomitant de hausse des rendements des pays cœurs et des rendements des pays périphériques. Sur la partie crédit, qui est un gros marché aujourd'hui en zone euro, on a un petit peu un marché qui était en sens unique avec un rapport de force entre actionnaires et créanciers qui a plutôt basculé du côté des actionnaires. Donc un appétit un petit peu moindre. Et donc là encore, il faut être un petit peu vigilant. Il y a beaucoup d'émetteurs de notation simple B, donc de petites entreprises qui généralement sont très sensibles à la conjoncture européenne et qui finalement offrent assez peu d'attrait dans le contexte de faible croissance qu'on connaît. Donc c'est plutôt une poche qu'on aura tendance à écarter en ciblant plutôt la catégorie supérieure d'entreprises mieux diversifiées et donc plus à même d'encaisser une croissance durablement faible sur la zone euro.
C'est, je dirais, il faut se préparer à des mouvements peut-être un peu plus brutaux sur ces marchés dans les prochains mois.
À partir du moment où la direction est donnée à la hausse des taux, c'est vrai qu'on a eu un écrasement des valorisations avec une corrélation très forte entre les différentes classes d'actifs. Et cette corrélation, elle marche aussi dans les deux sens. Donc quelque part, voilà, on a en ce moment cette première phase d'ajustement avec, finalement, il ne faut pas oublier sur la partie crédit, une liquidité qui est primordiale et qui est aujourd'hui un petit peu tarie avec des banques qui assurent beaucoup moins la liquidité que par le passé.
Merci Renan Blanc d'avoir été avec nous.
Merci à vous.